When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tsugi Radio.
Remise Session en direct du Carmen.
Antoine Dabrowski sur la Tsugi Radio.
Tsugi Radio sort de son studio. Bon, ça, vous avez l'habitude, hein, puis avec tous les festivals qu'on fait. Mais pour une fois, c'est à Paris. On est en direct et en public au Carmen, bar du 9e arrondissement, entre Pigalle et Blanche. Si vous nous suivez déjà à l'antenne depuis une bonne heure même, on va dire. Au platine, c'était Luo, DJ résident des copains du média Durvie. Je pense qu'on peut l'applaudir et montrer qu'il y a du public dans ce Carmen ce soir. Tout à l'heure, à partir de 23h, peut-être un petit peu après, un nouveau DJ set de Moodoïd, qui est également ici à ce micro. Deuxième Remise Session au Carmen, deuxième talk pour échanger sur nos pratiques culturelles, sur la façon dont on profite de la musique, car cela dit beaucoup de nous, dans notre petit salon, sur nos fauteuils club, des artistes avec lesquels on va se poser une question, peut-être même plusieurs. La musique peut-elle se passer des réseaux sociaux? Alors, il y a eu pas mal d'actualités hein, là-dessus ces derniers jours. Universal a retiré tout son catalogue de TikTok. Spotify, la semaine dernière, s'est indigné de devoir s'acquitter d'une taxe pour les dispositifs d'aide du Centre National de la Musique. Emmanuel de Burtel, le patron du label Because, a écrit dans Le Monde mardi dernier que TikTok devait respecter la musique. Alors on pourrait se demander comment, avec tout ça, musique et numérique peuvent faire bon ménage. Comment trouver un ton personnel et singulier sur les réseaux sociaux? Comment ne pas massacrer sa musique dans des versions sped-up? Bref, comment être artiste en 2024, parce qu'au fond, c'est ça qui nous intéresse. Avec moi ce soir, en direct sur Tsugi Radio, j'ai le plaisir de retrouver un jeune auteur, compositeur, interprète, mais aussi comédien, qui a rempli la Cigale la semaine passée. Bonjour, Alyosha Schneider.
Bonjour.
Ça va bien?
Ouais, ça va super, et toi?
Dans ces Remise Sessions, on s'ouvre aussi aux autres disciplines, aux autres acteurs et actrices de la culture. On accueille ce soir Amélie Zimmermann, que vous connaissez peut-être sous le pseudo de Fashion Quiche, qui décortique pour nous sur YouTube ou Instagram notre rapport à la mode. Bonsoir Amélie.
Bonsoir.
Bienvenue sur Tsugi Radio.
Merci.
En face de moi, une jeune artiste bien dans son époque, qui produit une musique hybride, qui plonge ses racines dans le grime, mais aussi dans la musique électronique et bien dans la pop. Tout ça qui sert de support à un propos parfois brute et parfois sombre. Bonsoir Maïssi.
Bonsoir.
À côté de moi, une autre jeune artiste qui mêle, elle, la pop et des influences R&B avec beaucoup de délicatesse et d'élégance. Elle multiplie les collaborations, on la connaît bien sûr de Tsugi Radio. C'est Anna Magidson. Salut Anna.
Salut Antoine.
Et puis le dernier, j'ai dit qu'il allait mixer tout à l'heure, on le connaît aussi, on va quand même lui tendre un micro parce que c'est un artiste important et singulier sur la scène française. Il a un point de vue forcément nourri de toutes ses influences, de toute son histoire et son parcours. C'est un artiste bourré de talent qui aime, comme moi, les prima donna. Il s'appelle Moodoïd. Salut Moodoïd.
Bonsoir.
Alors pour compléter notre panel, elle nous éclaire sur les liens entre réseaux sociaux, musique et politique. C'est notre docteur en sciences politiques, Lola Avril. Elle nous rejoindra tout à l'heure. Alors, Zao Tsagazan s'est filmé au piano pendant des années sur Instagram. Clara Luciani nous a laissé carrément entrer dans sa vie. D'autres artistes partagent les articles qui parlent d'eux, montrent des extraits de clips, proposent des versions sped-up comme Lana Del Rey, par exemple. Alyosha, toi qui évolues dans un univers pop, acoustique, des chansons qui naissent sur ta guitare, comment toi tu t'es approprié les réseaux sociaux pour aider au développement de ton projet artistique?
Bah moi, c'est quelque chose qui m'est vraiment pas naturel à la base. Je pense que si j'avais pas ma musique, je serais pas sur les réseaux sociaux. Ensuite, forcément, avec la musique, on a besoin d'une plateforme. À une époque, il y avait la télé, il y avait MTV, je sais pas. Enfin, moi, j'ai pas grandi en France, donc je sais pas quel était l'équivalent, mais même la presse a plus le poids qu'elle avait. Bref, on a besoin d'une plateforme et aujourd'hui, les gens sont sur les réseaux sociaux. Donc, si on veut exister, c'est là, pas le choix, quoi.
Il n'y a pas le choix et du coup, c'est compliqué pour toi d'arriver à trouver un endroit qui te ressemble sans se trahir, sans en restant proche d'une forme d'authenticité par rapport à ce que tu essaies de défendre artistiquement.
Ouais, bah c'est sûr que sur les réseaux sociaux, on voit les influenceurs prendre énormément de place, donc c'est sûr que tout d'un coup ça fait peur en tant qu'artiste, tu te dis c'est pas ce que j'ai envie de faire, c'est pas mon métier, moi je fais de la musique et tout d'un coup c'est vrai qu'il faut créer du contenu. Et c'est vrai que je me suis dit, mince, quand j'ai rêvé d'être musicien, c'est, à la base, c'était pas ça. Mais oui, je crois qu'il y a une façon d'être authentique et de trouver sa voix. Et c'est une plateforme comme une autre. Moi, j'étais fan de Bob Dylan, grand fan de Bob Dylan. Et je revois une interview de lui dans les années 80 où on lui dit, bon, maintenant, alors c'est l'ère des vidéoclips. Est-ce que vous allez faire des vidéoclips?
Il n'en a pas vraiment fait, hein, mais.
Ouais, mais au moins, il répond, bah si, il faut bien. Il dit, j'ai des disques à vendre. Bah ouais, je vais faire des vidéoclips, quoi. Et j'aimais cette façon de une certaine forme d'humilité. Il se dit, bah ouais, je vends mon truc et je vais faire ce qu'il faut pour.
Anna Magidson, toi, ton projet, il est assez jeune encore. Et moi, je parlais de Zao, voilà, le succès qu'elle a, elle est au Zénith demain soir, etc. Mais c'est vrai que ça a été très long et elle a vraiment pris ce parti de se filmer au piano, etc. Toi, est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, dans le développement de mon projet, je vais créer du contenu, comme dit Alyosha, et créer un format spécifique pour les réseaux sociaux pour accompagner mes chansons, accompagner mes débuts dans la musique?
J'ai eu une petite phase où toutes les semaines, tous les lundis, je sortais des Anna a cappella, où c'était des arrangements de avec plein de voix, genre 10 stacks de voix, où je réinterprétais des morceaux et je me suis un peu lassée de ça. Parce que c'est ça aussi qui est tellement dur, c'est l'endurance qu'il faut avoir derrière. Parce que ça peut prendre hyper subitement, comme ça peut prendre des années, comme tu disais pour Zao. Et c'est ça, comme Alyosha disait, en fait, il n'y a pas d'autre option que d'être confronté à ça. Et il ne faut absolument pas lâcher le bout.
J'ai l'impression qu'il y a un mot qui est presque rentré dans le langage courant et qui s'applique très bien aux réseaux sociaux, qu'on peut vivre nous aussi à Tsugi Radio, c'est le mot chronophage. Ça prend énormément de temps, les réseaux sociaux. Quand on grandit un peu, quand on commence à avoir du succès, il y a aussi beaucoup de sollicitations de sa communauté. Est-ce que toi, à un moment, tu as dû dire, OK, il faut que je rééquilibre aussi le temps que je passe à faire mon métier de musicienne, de chanteuse, par rapport au temps que je consacre aux réseaux sociaux?
Oui, absolument. C'est de la discipline, en fait. Il faut que ce soit une priorité dans ton planning, parce que en fait, ça pèse plus que le reste aujourd'hui, c'est sûr et certain.
Moudoïd, on a que 5 micros contre 6. Toi, t'as un tout petit peu plus, c'est un petit peu plus d'expérience que.
Ah, je crois qu'il est plus vieux, c'est ça.
mais t'as presque, enfin, je dis pas que t'as vu le début sans réseaux sociaux, mais t'as peut-être connu une période où, bah, voilà, la presse avait encore un petit peu plus d'influence, etc. Est-ce que cette évolution-là, cette prise d'importance, des réseaux sociaux, c'est quelque chose que tu embrasse ou au contraire qui t'embête dans le développement de ton projet?
C'est clairement quelque chose qui m'embête plus que qui me fait du plaisir. Non, mais plus dans le sens où pour revenir un peu sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a un peu un truc où quand j'ai commencé à faire de la musique, il y avait cette idée que créer un projet musical, c'était aussi créer un univers, un univers visuel et créer un peu un truc, une magie. Et avec l'ère des réseaux sociaux, il y a un peu ce truc où maintenant il y a une sorte de transparence, une sorte de no filter. On te voit dans ton salon, on te voit dans ta vie, on te voit un peu partout. Et pour moi, c'est un rapport que j'ai jamais eu avec les artistes que j'admire, par exemple, comme Bob Dylan ou Prince ou je ne sais qui d'ailleurs, mais où toute une campagne reposait sur 3 photos de presse, une vidéo de live incroyable, et puis c'était tout, et puis en fait ça tenait 2 ans comme ça, et maintenant c'est plus à base de une vidéo par jour ou par ou je sais pas combien par semaine, et en fait une sorte de quantité astronomique de contenu qui doivent être à chaque fois différents, donc ça demande énormément aussi de créativité, de puiser beaucoup d'énergie dans cette créativité aussi de communication, et moi je trouve que c'est quand même au final quelque chose qui prend beaucoup beaucoup de place maintenant dans l'artistique.
Mais toi, tu es un artiste qui, tu fais de la musique, tu fais de l'illustration, t'es très présent, t'as toujours développé un univers très fort visuellement autour de Moudoïd, même quand il y avait, comme on le disait, que des clips et des pochettes d'albums. Est-ce que c'est pas aussi une formidable opportunité à un moment de se dire, on a, je sais pas, voilà, des carrés sur Instagram ou des vidéos à mettre et se dire, on peut étendre le champ de son terrain d'expression?
Ben, ça dépend quel est ton terrain d'expression, mais enfin moi j'aime les choses très très fictionnelles entre guillemets, et en fait les gens sur les réseaux sociaux ils aiment les choses qui sont très brutes, enfin ils aiment les, enfin je pense que ce qui marche le plus pour l'avoir expérimenté ça, c'est quand même des choses ils préfèrent que tu te filmes tout seul avec ton selfie et que tu dises un truc très spontané devant la caméra. Et, enfin, tu peux faire un accident comme ça, il va avoir beaucoup plus de visibilité que si tu prépares un contenu en y pensant comme partie intégrante de ton parcours, de ton œuvre artistique, entre guillemets. Et les contenus auparavant, comme les clips, ça faisait vraiment partie, ça s'imbriquait dans, ta, dans, dans ton univers artistique et, en tant que tel. Donc c'est quelque chose qui reste un peu dans, ta, je sais pas, dans ton Wikipédia, quoi. Ouais. Alors que quand tu fais une story, ça va jamais rester, ça va, c'est quelque chose qui va exister un instant et qui va disparaître. Et ce rapport-là à la communication dans la musique, c'est quelque chose qui change complètement les fondamentaux pour moi, en tout cas de d'une campagne, d'un album et de l'histoire que tu racontes avec un album. Et c'est quelque chose que j'essaie de dompter et pour moi, c'est quelque chose d'assez difficile.
Tu as une forme de perte de contrôle aussi de son propos.
Bah, c'est réinventer énormément son imaginaire autour de la musique et c'est aussi le rendre... Enfin, pour moi, ça repose beaucoup sur la créativité toujours, mais en fait, c'est-à-dire que maintenant, tu es obligé de beaucoup réfléchir à ça. Ça prend beaucoup de place, et c'est vrai que quand j'ai imaginé faire ce métier, j'aurais jamais imaginé un jour que ça puisse prendre autant de place, la communication, le marketing et toutes ces questions-là, parce que je connaissais même pas en fait quand j'ai fait de la musique à la base. Moi, ce qui me plaisait, c'était juste de chanter, de faire de la guitare, et puis je sais pas de faire des jolies images avec qui racontent mes images qu'il y a dans ma tête. Mais là, c'est autre chose qu'on nous demande. On demande de vendre en direct. Alors qu'avant, je pense que c'était plus le travail de label ou c'était le travail dans l'industrie de la musique qui se chargeait de ça. Mais maintenant, c'est plus ça. C'est l'artiste qui en charge lui-même de faire en sorte que ça marche dans les labels. Il n'y a plus de directeur artistique de musique. Il y a des chefs de projet de marketing qui te disent il faut que tu postes des TikTok et que tu mettes des hashtags derrière tes posts TikTok. Et ça, moi, ça me déprime pour l'instant. J'ai du mal à trouver de l'enthousiasme.
Maïsy, toi qui es une jeune artiste, qu'est-ce que ça t'inspire? Parce que tu étais dans l'avant-dernière sélection du Fer, par exemple, pour situer. Qu'est-ce que ça t'inspire, ce que vient de dire Moodoïd, par rapport à cette obligation, cet passage obligé des réseaux sociaux?
Ouais, bah du coup, en vrai, moi, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Alyosha, Anna et du coup Moodoïd. Mais du coup, c'est quelque chose qui est pas du tout naturel pour moi, les réseaux sociaux. Donc désolée, je peux pas faire partie de cette jeune génération qui s'est super à l'aise avec ça. C'est pas du tout le cas.
Est-ce qu'ils existent vraiment chez les artistes, des gens qui sont très à l'aise avec
Ouais, en vrai, je connais des gens qui, je sais pas, ils ont tellement grandi avec ça que du coup c'est vraiment une extension d'eux-mêmes, là où moi c'est vrai que c'est pas naturel et je mets beaucoup de temps à m'adapter à chaque réseau. Et donc je sais que là pour l'instant Insta par exemple, genre c'est bon, je l'ai, genre je dis pas que c'est quelque chose que j'aime forcément faire, mais ça va, c'est naturel, je fais des stories, je me prends pas la tête. Surtout il y a un truc qui est important, c'est les stats et les chiffres et tout, et c'est quelque chose que j'ai réussi à complètement me défaire. Et ça fait un bien fou, parce qu'en fait, on est grave accrochés, tu sais, alors combien t'as fait de vues, combien t'as fait de likes et tout. Je trouve ça trop cool qu'aujourd'hui, en tout cas, moi, j'ai réussi à m'en défaire. Mais par contre, c'est sûr qu'à l'inverse, on va te demander, donc moi, je suis full en indépendant, j'ai pas du tout d'entourage aujourd'hui, à part un tourneur. Mais on va tout le temps te demander beaucoup plus de stats, beaucoup plus d'abonnés. En fait, il faut que tu crées ta propre voix, ton propre média. Ce qui est certes une chose cool, mais comme tu dis, c'est un métier complètement différent. C'est pas du tout ce que je veux faire. Moi, je veux faire de la musique. Et aujourd'hui, même, enfin, en ce moment même, genre, c'est complètement pas du tout mon métier. Enfin, si, mais je veux dire, je fais beaucoup moins de musique. Enfin, beaucoup trop de communication et de trucs comme ça, que ça me plaisait pas à la base. Et pour en revenir, par exemple, aux réseaux sociaux, je disais que je m'étais longtemps à m'habituer un peu aux nouveaux réseaux. Par exemple, TikTok. J'arrive pas. En plus, c'est là depuis un peu longtemps, mais genre, j'arrive
pas. Ça me rassure un peu que une jeune femme dise ça.
Ouais. Et tu vois, c'est pas, comme disait Anna, c'est genre vraiment une question de consistance qui est franchement, enfin, pour moi, en tout cas, aujourd'hui, c'est infaisable. Parce que aujourd'hui, quand on te dit oui, TikTok, c'est simple, et tout le monde va te dire, il faut poster 3 vidéos par jour. T'imagines? Nous, on est des artistes, on réfléchit, enfin, bien sûr, c'est spontané quand on crée, tu vois, mais on réfléchit quand même à est-ce qu'on veut sortir, on est assez perfectionniste, enfin, je sais pas, on va se prendre la tête sur des trucs et tout. Moi j'aime trop, comme tu disais, réfléchir à un univers. Je suis assez piquée sur mes visuels, je travaille de ouf sur les clips, j'aime trop ça, genre c'est vraiment quelque chose, je veux aller au bout des choses, tu vois. Et du coup ce genre de truc spontané, publier 3 vidéos par jour qui pour moi sont pas ce que je veux représenter, même si c'est pour marcher, pour avoir plus d'abonnés, pour avoir derrière peut-être le deal de mes rêves, pour après pouvoir faire la tournée dans le monde que je veux faire, tu vois. Ben en fait, genre c'est très compliqué à attendre et voilà. Donc je suis pas la plus à l'aise sur les réseaux sociaux aujourd'hui, mais c'est sûr que c'est quelque chose en vrai d'essentiel, surtout quand t'es indé, que t'as personne autour de toi qui peut, enfin tu vois, t'as pas de, je sais pas, de RP ou de, je sais pas, de label qui peut faire ta promo. Genre faut que tu construises ta propre voix pour pouvoir ensuite découvrir, enfin en fait, t'associer avec des partenaires dont t'as besoin pour développer ta carrière. Enfin, c'est un peu ça que je vois aujourd'hui.
Amélie Zimmermann, alors toi, tu n'es pas musicienne.
Et non, pas encore.
pour autant, tu prends la parole en public, enfin volontaire. Est-ce que tu te sers beaucoup de YouTube, d'Instagram? Est-ce que toi, tu te serais imaginé faire ce que tu fais aujourd'hui, mais dans des médias classiques, dans la presse, à la télé, etc. Ou est-ce que finalement, YouTube a aussi été en adéquation avec le ton que tu voulais avoir, avec la forme que tu voulais donner à ton sujet?
Oui, complètement. Après, moi, j'ai un rapport très différent que vous tous, puisque vous avez l'air d'avoir un rapport plutôt négatif à ces réseaux. Moi, c'est vraiment... Je me suis tournée là-dessus parce que j'avais envie et surtout j'avais besoin, en fait. Moi j'ai grandi en Alsace dans un village passionné par la mode. J'avais besoin, pour avoir accès à certaines connaissances, de me tourner vers les réseaux sociaux. J'avais pas accès aux magazines, aux expos, aux machins, aux trucs, sans pour autant vivre dans un bled paumé, mais quand même. Et donc j'ai trouvé dans les réseaux sociaux quelque chose qu'il y avait nulle part d'autre. Et aussi, moi, ce qui me plaît et pourquoi je me suis tournée sur YouTube, enfin vers YouTube, c'est parce que on n'est pas sur un plateau télé, on est dans un espèce de truc où on suit une personne parce qu'on aime sa personnalité. Moi, ça, c'est un truc dont je suis convaincue. On suit pas une personne pour son contenu, mais parce que sa personnalité nous plaît. Donc il y a une certaine forme de liberté quand même dans ces réseaux sociaux, même si c'est une liberté qui est à double tranchant, évidemment, notamment quand on est artiste, je peux que l'imaginer. Mais pour moi, il y a quelque chose de très instinctif et qui m'a permis justement de prendre la parole sur ces réseaux-là, parce que je me retrouvais pas dans des formats plus classiques. Moi, la télé, ça m'intéresse pas. Les articles... j'en écris pour d'autres médias, mais c'est pas là où je peux aller au bout de ma pensée. Et en fait, ce parti pris de parler, moi, en tant que personne, en première personne, le jeu, totalement assumé, je trouve qu'il tient que sur les réseaux sociaux. Et du coup, moi, ça me plaît. Mais moi, je fais quelque chose... Enfin, mon usage des réseaux sociaux, c'est aussi réfléchir sur nos pratiques des réseaux sociaux et tout. Et du coup, c'est pas pour promouvoir un autre objet qui serait, par exemple, la musique ou autre chose. Donc, c'est un autre rapport.
Oui, il y a le jeu, et puis il y a aussi une réflexion que tu proposes à travers les vidéos, notamment sur YouTube, qui sont quand même des formats assez longs, on est autour de la vingtaine de minutes, où tu te donnes un sujet et l'approche que tu as de ton sujet, la mode. Enfin, je vais citer quelques thèmes, hein. Pourquoi le moche est à la mode? Pourquoi les hommes semblent s'habiller si mal? Est-il paradoxal d'être féministe et d'adorer la mode? Il faut décoloniser la haute couture. Donc on est quand même sur des sujets qui ont un enjeu philosophique, sociétal, politique parfois. Mm-hmm. Et aussi, est-ce que cette liberté que procure YouTube, elle est plus difficile à conquérir sur des médias classiques aussi?
Je sais pas, j'ai pas été invitée sur tant de médias. Mais, écoute, mais en tout cas, sur
je suis ici
YouTube,
ce soir.
Merci. Mais en tout cas, sur YouTube, à partir du moment où tu dis que c'est ton opinion, je trouve que t'as la liberté de faire ce que tu veux. Et à partir de là, ça te donne un espace de parole qui est incroyable. Et en fait, moi, mon pari sur ce que je fais dans ma chaîne, parce que moi, je parle de mode, mais j'ai fait de la philosophie par mes études, et c'est par ce biais-là que j'ai envie d'investiguer la mode même, pour un peu questionner nos pratiques corporelles, vestimentaires, notre rapport au corps, à la sexualité, au désir, à autrui, etc., à la créativité aussi. pour moi, on peut te, enfin mon pari, c'est qu'on peut parler de ça et intéresser les gens. On n'est pas obligé non plus d'être dans un format qui est certes le format qui marche le plus, mais par ailleurs, on peut quand même intéresser les gens en parlant de choses, de problèmes de fond, en parlant de choses qui nous concernent toutes et tous. Mais c'est compliqué et on est toujours dans un rapport aussi de est-ce que je me montre, qu'est-ce que c'est, enfin moi en tout cas, est-ce que c'est un complexe narcissique qui me pousse à me filmer et parler d'un sujet qui me tient à cœur, etc., etc. Mais il y a quelque chose, ouais, de l'ordre de la, d'une certaine liberté. Je me sens pas de devoir me justifier parce que j'amène un sujet. Mais les gens qui me regardent me suivent dans ça, donc je me sens assez libre sur Internet, ouais.
Anna Magidson, tu as sorti donc deux EP, La Rivière en 2022, Ménagerie de glace l'année dernière, et puis il y a eu des collaborations, des titres, etc. Est-ce que, par rapport à ce que vient de dire Amélie, tu trouves ça plus difficile de te montrer dans ton salon ou même en train de travailler dans ton studio sur les réseaux sociaux que de monter sur scène? Est-ce que c'est plus simple pour toi dans, voilà, est-ce que c'est narcissique ou pas? Mais comment tu te positionnes là-dessus?
En fait, c'est un peu des persos différents parce que c'est tellement instantané de se filmer en selfie, en studio. C'est tellement peu d'informations rapidement qui va être aussi immédiatement genre digéré et un peu jeté. Alors que sur scène, on peut avoir... C'est après, t'en parles avec tes potes en mode « Ouais, c'était comme ça, c'était pas ouf. » Genre ce qu'elle a porté, nanana. Ça imprime plus sur l'esprit quand même. Donc pour moi, ça va être deux... personnalités différentes, même peut-être dans ma tête. Et en termes de performance, pour moi, je pense que sur scène, on peut se permettre d'avoir un peu plus de... Pour moi, je me sens plus libre sur scène que sur les réseaux parce qu'on a une... Aussi sur les réseaux, peut-être ce truc de... Je pense que humilité, c'est le bon mot, de pas trop être arrogant non plus, de pas en faire trop. Et moi, j'aime beaucoup l'aspect performance d'être sur scène, donc j'aime bien en faire... peut-être un peu trop sur scène et un peu moins sur les réseaux pour un peu... Et peut-être ça peut créer un équilibre aussi entre les deux, ce qui peut être cool. Voilà.
Moudouid, pour revenir sur YouTube, que connaît bien Amélie Zimmermann, YouTube a été aussi... je trouve qu'il y a une bascule chez les artistes, chez les musiciens, entre les musiciens pré-YouTube et les musiciens post-YouTube dans le rapport à la musique, à se documenter, à, enfin, voilà, le cliché de avant, bah, fallait aller acheter des disques, attendre qu'ils sortent, etc. Et aujourd'hui, tu peux t'envoyer la discographie de quelqu'un en une journée sur YouTube. Est-ce que ça a été toi qui a un côté digger, qui a un côté, recherche de son, de sonorité, de texture? Est-ce que ça a été un outil pour toi, YouTube, par exemple?
Alors moi, je suis encore plus vieux que YouTube. J'allais à la médiathèque tous les mercredis pour graver les disques sur mon Mac de mes parents. Mais ouais, après avec YouTube, ça a été surtout le. Enfin, après c'est plus dans le côté que pour les clips et pour les visuels que ça a été aussi un moyen de redécouvrir des vidéos méconnues ou des vidéos d'artistes. Mais j'ai jamais eu un rapport avec YouTube de diguer de la musique. Ça a été plus vraiment une machine à images pour m'inspirer. Par exemple, je me suis beaucoup inspiré, je sais pas, de campagnes de pub de Bollywood des années 70, des pubs pour, enfin des trucs comme ça, quoi. Mais c'était tout à coup accès comme ça à une banque infinie d'images plus que de musique.
Même question, Alyosha, est-ce que YouTube pour toi, ça a été une source de musique, de culture, un endroit où t'allais diguer ou finalement la médiathèque ou la discothèque familiale, c'était mieux?
J'ai eu les deux. Non, mais même par rapport à Instagram, en fait, pour moi aujourd'hui, c'est vraiment, je suis énormément d'artistes. Même Instagram, c'est un endroit où je découvre énormément de gens. Il y a énormément d'artistes, même qui sont généreux par rapport à leur façon de travailler, qui montrent, qui ouvrent leurs sessions. Je trouve que c'est une énorme source d'inspiration aussi.
Maïsie, toi, tu regardes Instagram pour regarder ce qui se passe, par exemple, de l'autre côté de la Manche, les artistes britanniques, qui c'est un endroit où tu vas piocher des inspirations, des idées de visuel, de look, de musique, de son, ou
ouais,
pas du tout?
Complètement. Mais du coup, comme disait Alyosha aussi, c'est vraiment tous les réseaux finalement qui m'inspirent. Je fais pas du tout attention à d'où vient la personne. C'est vraiment plus des images. Des artistes différents. Je vais vachement de compte en compte aussi. Je sais pas. J'étais en train de réfléchir aujourd'hui, mais c'est vrai que oui, ça m'inspire beaucoup. Je sais pas exactement comment je digue tout ce que je digue, mais que ce soit ouais, toutes ces plateformes-là, c'est sûr que ça aide à percevoir un peu tout ce qui se fait et à être inspiré.
Alyosha, quand le projet il se met à marcher un peu, on imagine aussi qu'il y a beaucoup de gens qui vous sollicitent, de fans qui viennent vous parler. Est-ce que c'est tu passes du temps à répondre aux gens, tu regardes, tu regardes pas. Il y a aussi le côté les mauvais commentaires, les mauvaises réactions. Est-ce que tu te protèges de ça, tu le laisses un peu à distance ou au contraire tu es un peu accro aux réactions des gens?
Je suis plutôt du genre à me protéger, pas. Je lis quelques fois, mais c'est vrai que comme tout le monde, on est tellement sensible à sur 100 commentaires positifs, s'il y en a un négatif, c'est celui-ci qu'on retient.
Mais, normal, c'est humain.
Exactement. Mais non, mais c'est en tout cas, c'est vrai que les réseaux, c'est chouette pour ça d'avoir un lien direct avec les gens et de pouvoir parler aux fans, que d'ailleurs j'ai jamais aimé vraiment appeler fans, surtout quand on les rencontre, en fait il y a un truc fan, il y a un truc de fanatique, et en fait non, c'est juste des gens avec qui on partage une sensibilité. Finalement, s'ils aiment notre musique, c'est que quelque part on partage quelque chose, et ça permet un échange. Les réseaux, c'est génial pour ça, ce que la télé ou la presse permettait pas avant.
Je voudrais qu'on écoute, parce qu'il y a un morceau qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Alors là, je vais prendre mon téléphone et ça va être super. Un peu long peut-être, parce que je ne suis pas un digital native. Un morceau qui est sorti, voilà, c'est dit, de Moodoid. Voilà, quand il continue à explorer ce projet Prima Donna, il y a déjà eu deux volumes. Un volume, je crois, Japanese version, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, il y a eu des réadaptations en japonais.
Des réadaptations en japonais. Et il y a un titre avec Anna Magidson qui s'appelle Oups. Je voudrais qu'on en écoute un extrait sur la Tsugi Radio. Alors, pas du tout. Voilà. Non, on va pas faire ça du tout comme ça. On va faire ça comme ça. Ça sera beaucoup plus parlant, beaucoup plus radiophonique. Mais je vais pas du tout y arriver, donc ça va être un problème. Alors. Et voilà, quand la technologie fait défaut, en direct sur la Tsugi Radio du Carmen pour cette... Pas du tout, ça se passe très mal. Alors, je voudrais vraiment qu'on l'écoute quand même. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter de cette collaboration pendant que j'essaierai de régler mes bails tous les deux?
Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, finalement, ça a joué. Je ne sais pas si je t'ai contacté sur Insta. Mais en tout cas, ouais, sur cet album, moi, j'ai profité des réseaux pour rencontrer aussi des artistes que j'admire beaucoup et pour entrer en contact avec eux. Et c'est vrai que ça permet aussi un contact direct, du coup, entre artistes, ou je pense peut-être à une autre époque, ça passait aussi par les maisons de disques qui mettaient en relation les artistes. Et là, en l'occurrence, c'était pas du tout le cas. Ça a permis de vraiment de, vu que l'idée était de faire un album collaboratif en invitant des gens à chaque fois, ça permettait de pouvoir aller au charbon moi-même et de pouvoir directement parler aux chanteuses que je souhaitais inviter.
Alors, une des prima donna de Moodoid, c'est Anna Magidson. Ça devrait marcher. C'est dingue. Ouais.
Yeah, I think we need to talk.
Anna Magidson sur la Tsugi Radio. Alors, qu'est-ce qui t'a séduit dans l'univers d'Anna Magidson, Moodoid, pour lui proposer de venir devenir une de tes prima donna?
Eh bien, Déjà, j'avais assez envie d'aborder. En fait, on s'est rencontrés un dimanche matin, je crois, hyper tôt, pour la première fois dans la vraie vie. En fait, on s'est rencontrés pour vraiment travailler ensemble en studio. Et les choses se sont faites hyper rapidement. Et on s'est vraiment posé. Je lui ai fait écouter la musique. Il n'y avait pas de voix dessus. Et elle a directement proposé un thème. Et moi, je crois que j'avais vraiment envie de venir chercher quelque chose qu'on ressent dans la chanson aujourd'hui, qui est de l'ordre de la relation. C'est un peu comme un dialogue qu'on a construit sur une sorte de relation. Et moi, c'était un moment donné où je vivais une rupture amoureuse. Donc c'était un peu la seule info qu'on avait, et du coup c'est arrivé comme ça. On a écrit ce thème là la chanson sous forme de dialogue avec une étrangère qui parle anglais et moi qui parle en français.
Parce que c'est un peu l'idée de Prima Donna, c'est pas des featuring, tu donnes pas un texte, une mélodie à toutes ces chanteuses, c'est vous travaillez vraiment main dans la main, quoi.
Et il n'y a pas de recette, il n'y a pas eu de recette en tout cas, mais ouais. En fait il y a 15 chansons qui sont faites de manière complètement indépendantes les unes des autres. Et il y a des chanteuses avec qui m'ont, enfin c'est elles qui ont amené la musique, et moi j'ai juste produit, réarrangé et écrit les paroles. D'autres où c'est vraiment l'inverse, c'est moi qui arrivais avec les mélodies, elles ont proposé des paroles ou elles ont proposé des nouvelles parties. Donc je sais pas, ça s'est fait vraiment de manière très différente. Il y avait aussi des personnes partout dans le monde, donc du coup j'ai dû aussi voyager avec ma carte son et mon micro pour aller enregistrer toutes ces voix aussi parfois. Donc pour moi c'était aussi un moyen de faire un peu une petite aventure et d'aller rencontrer tous ces artistes que j'adore.
Anna, quel souvenir tu as de ce moment de création partagé avec Modoïd?
Bah, je t'ai jamais dit. Donc là, je fais confession time. Trop bien. Mais en fait, quand je suis arrivée en France il y a 7 ans, ton nom, c'était un des premiers noms que j'ai connus dans l'industrie, parce que moi, j'ai grandi aux États-Unis, après j'étais à Montréal, après je suis arrivée à Paris, et on m'avait demandé de traduire un brief à toi pour une boîte de prod image, pour un de tes clips, je pense, que j'avais traduit en anglais ou un truc comme ça. Et du coup, ton nom, il était tellement iconique dans mon inconscient, en fait. Et du coup, j'ai été trop contente de faire un morceau avec toi. Et en vrai, tu m'avais envoyé quand même en amont 2-3 trucs. Et puis, j'étais arrivée préparée en session et tout. Donc, ça s'est fait très fluidement aussi pour ça. Et c'est aussi rare d'avoir un projet aussi riche musicalement où tu vas diguer dans des trucs très musicaux, où c'est pas forcément que la voix qui est en avant, mais aussi l'instru. Donc voilà. Je sais pas si ça répond à ta question.
C'est une réponse, c'est la tienne. Amélie Zimmermann, on parlait des influenceuses et des influenceurs tout à l'heure. La mode, c'est un milieu qu'on est donc rempli. Est-ce que la fashion quiche, elle entretient des relations avec toute cette faune-là qui gravite autour de la mode? Est-ce que le dialogue est possible, que ce soit à travers les réseaux sociaux ou dans un défilé ou dans la vraie vie?
J'espère. Moi, les personnes qui me regardent et qui m'écoutent sont pas forcément issues de la mode. C'est plus des personnes qui tapent des mots-clés au hasard et tombent sur mes vidéos, généralement. Mais oui, je pense qu'un dialogue est possible. Je pense que comme tout milieu, la mode, c'est un milieu très hermétique, très fermé, qui a ses codes, qui a ses normes, qui joue énormément des réseaux. Mais à la fois, c'est par les réseaux qu'on en apprend plus. Et moi, il y a un concept qui m'aide beaucoup à penser notre rapport au réseau, qui est un concept qui s'appelle l'hétérotopie, qui a été développé par Michel Foucault en 1967, qui est un philosophe du XXe siècle majeur, qui dit que en fait, l'hétérotopie, c'est le lieu de l'utopie, c'est le lieu où l'impossible est possible, c'est le lieu qui abrite notre imaginaire. Michel Foucault, il en parle comme d'un cinéma, comme d'un théâtre, comme d'un Club Med même. Il en parle aussi comme d'un musée. Et il y a tout un passage dans son texte, parce que je l'ai relu en pensant à notre discussion ce soir, où il parle du musée comme la trace de notre modernité, un endroit où on a envie de tout avoir au même endroit, de tout stocker, un maximum de connaissances, toutes les temporalités en même temps, etc. Ce qui me fait beaucoup penser aux réseaux sociaux au final, parce que c'est exactement ça. Sauf que la différence avec un musée, c'est qu'il y a une curation. Il y a quelqu'un qui vient mettre des cartels sous les œuvres, qui va faire un passage pour qu'on comprenne un peu le lien entre les œuvres. Sur les réseaux sociaux, on n'a pas ça. C'est à nous de faire notre propre curation. Mais tout ça pour dire que le réseau social, en tant qu'hétérotopie, pour moi, c'est aussi un lieu de rencontre. C'est un lieu où c'est possible de rêver, où c'est possible, ben, tout à coup, de suivre la Fashion Week de New York alors que tu habites dans un village en Alsace, comme moi, ça a été le cas quand j'étais adolescente. Et donc, à partir de ce moment-là, oui, ça a créé une proximité. Est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'elle est fantasmée? Elle est sûrement plus fantasmée que réelle, mais au moins, elle existe. Donc, voilà.
Maïssy, est-ce que les réseaux sociaux, cette pression-là, c'est quelque chose qui a pu t'handicaper dans ton développement d'artiste, avoir suffisamment de reach, voir des autres faire aller plus vite, plus loin, faire mieux, etc. Ou est-ce que finalement, quand on est artiste, comme on n'aime pas trop ça, on y regarde ça le moins possible?
Non, clairement, ça a été un vrai sujet dans ma vie de mal-être. Vraiment, je pense, par rapport à moi en tant qu'artiste. Je pense que déjà, de base, ça peut être un sujet... Enfin, bien sûr qu'il y a des côtés super, super positifs aux réseaux sociaux. Comme tu disais, la proximité, enfin, il y a énormément de côtés positifs aussi. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais il y a aussi un côté ultra néfaste, notamment par rapport à son image, tout le temps la comparaison, etc. Je parle artiste ou pas artiste. Et du coup, quand on est artiste, forcément, enfin, moi, j'ai vécu des moments super durs par rapport à ça, où on me demandait, mon entourage, de fournir plus de contenu. C'était quelque chose qui n'était pas naturel, parce que, encore une fois, je voulais juste faire de la musique. Donc ouais, ça a été une grosse, grosse source de pression. Et ça a été... En vrai, ça m'a mis tellement mal qu'aujourd'hui, je suis vraiment contente de... Mais vraiment, genre là, aujourd'hui, c'est plus du tout... J'ai pas du tout le même rapport. Mais ça a été une épreuve de fou, en tout cas pour moi. Et oui, ça a été un problème...
Est-ce que c'est un problème particulièrement aussi en tant que femme, ou est-ce que c'est plus un problème en tant que femme, ou...
Non, enfin, je l'ai pas perçu
comme ça. Par rapport à la sexualisation du corps des femmes, à l'image corps des femmes sur les réseaux sociaux, etc.
Non, je pensais même pas à ça. Juste le fait de te mettre en avant, je pense, de devoir penser à du contenu, de devoir poster régulièrement. Enfin, c'est un travail qui était pas du tout naturel et on m'a mis beaucoup de pression, comme je disais, donc. Que ce soit l'entourage, mais encore aujourd'hui, comme je te disais, si tu veux avoir des bons deals ou des personnes qui acceptent de bosser sur ton projet, pour qu'ils croient en toi, il faut que tu aies des signaux qui sont, malheureusement, enfin, c'est ces trucs de réseaux sociaux là aussi, malheureusement, heureusement, je sais pas, mais en tout cas, oui, ça a été une pression. Aujourd'hui, ça l'est plus parce que, je sais pas, peut-être que ça sera un frein à un moment donné, mais aujourd'hui, je pense que mentalement, je me suis juste défait un peu de tout ça et j'avance quoi qu'il arrive, quoi.
Alors que finalement, quand vous faites de la musique, ce qui est pas mal, c'est d'écouter la musique aussi, pour savoir ce qui se passe. Par exemple, Not My Day, qui est sorti à l'automne. Vous pouvez écouter un petit extrait sur la Tsugi Radio de Maïssy, en direct du Carmen, pour cette remise session. This is hard. Knock my head on the bar. How can I cope with life? Now I'm bleeding. I haven't found any answer. Hope I get help with somebody's prayer. I'm in my weird thoughts. Don't know what I want. I can't even give a fuck. And as I'm writing this down in my head, I just almost got hit by a bus. Yeah, got my demons around and I'm chasing them. Hope I get to lose in the end. It's like there is no way out. The world is crumbling. Everything's falling apart. Nothing excites me no more. What do I like? I'm tired of the people, even more of myself. And am I even awake? With all that said, I think that you get. Today's not my day. I'm just pissed off. I'm a dance and I'll sip on some liquor. Sorry, I'm quite moody, I'm in the dark. In the club, trying to get an energy. Can read all these thoughts that I got the best of me. Wave my hand and so my nails are acting like clothes. Don't get too close. Today's not my day, I'm just pissed off.
ici sur la Tsugi Radio en direct du Carmen pour Romy Session. Massi, tu es en concert un peu en ce moment, comme pas mal d'entre vous, parce que le 16 mars, tu seras à Lausanne. Il y aura Repercussound à Villeurbanne. En avril, il y aura Luxembourg, Lyon. Les Femmes s'en mêlent à Marseille, au Makeda. Ça sera pour le 27 avril. Alyosha Schneider, tu regardes, pour sortir un peu des réseaux sociaux, parler plutôt des plateformes, tu regardes beaucoup les chiffres des streams sur Spotify, etc. Ou c'est pareil, c'est quelque chose dont tu essaies de... Tu sais que c'est là, mais voilà, tu vas de loin en loin.
Putain, je regarde à fond.
Ah ouais ?
Ouais, bah ouais, forcément.
Ah ouais ?
Bah attends, j'ai mis tellement de travail là-dedans et tout, ça sort, bien sûr que ça m'intéresse de regarder si ça plaît aux gens. Et même encore une fois, c'est à ça que je pensais cette semaine, aujourd'hui, quand je me disais qu'est-ce que je vais pouvoir leur raconter sur les réseaux sociaux, je repensais à une interview de Tyler, The Creator, que j'avais vue, et il parlait d'artistes qu'il voyait, il dit, ils bossent pendant 2 ans sur un disque, ils y mettent toute leur énergie, tout leur cœur, et ça sort, et ils font un pauvre post de album is out, tu vois. Alors, il dit, non, mais mec, t'as bossé comme un fou, quoi. Tu vas dans la rue, distribuer des pamphlets, t'en parles à tout le monde, faut que ça marche. Et c'est vrai, les gens, un peu par rapport aux réseaux sociaux, qui disent, ouais, ça m'emmerde, bah, tu dis, non, en fait, faut que tu fasses tout pour ton truc, il existe. Et donc, tout ça pour dire que oui, les chiffres, je les regarde, quoi. Parce que si ça se passe pas, et je me dis, faut que je fasse un truc pour que ça fonctionne.
Mais là, ça se passe plutôt pas trop mal, non?
Ça se passe bien. Mais du coup, je vois un rapport direct entre ce que je fais, entre ce que je fais pour que le projet existe, et j'ai un rapport direct avec les chiffres. C'est comme si tu racontes une blague, si les gens se marrent, tu te rends compte que c'est drôle, quoi. Mmh. Donc c'est exactement la même chose avec les chiffres, te racontent un peu ça.
Mais du coup, nous, on peut le vivre en tant que presse musicale, culturelle, etc., où il y a une espèce de compétition qui est entretenue parfois par les artistes, parfois par leur entourage, entre justement, est-ce qu'on, voilà, par exemple, les rappeurs font plus de promos, je sais pas, on va peut-être essayer d'avoir des rappeurs ici, Remise Session, ça peut être compliqué. Il y a aussi des artistes qui réagissent très très mal à une mauvaise critique dans la presse et qui s'en font état dans les réseaux sociaux. Toi, il y a eu des bonnes critiques, il y a eu des critiques un peu moins bonnes dans la presse. Comment tu te positionnes là-dessus par rapport entre un mauvais commentaire sur un réseau social et une mauvaise critique dans la presse ? Est-ce que tu le prends de la même manière ? Est-ce que ça t'affecte de la même manière ?
Je dirais que ça m'affecte de la même manière, une mauvaise critique. Par contre, je lis pas les critiques. Ça, c'est un truc, parce que même une bonne critique, en fait, il y a un truc où ça peut te déplaire parce qu'ils ont dit quelque chose qui peut même être positif. Et en fait, tu dis, oui, mais c'est pas exactement ça, ma musique, ils ont pas mis le doigt dessus. Donc ça sert à rien. Par contre, une mauvaise critique peut te faire plus mal qu'un mauvais commentaire sur les réseaux sociaux. Mais forcément, encore une fois, on y met tellement tout notre cœur qu'on a envie que tout le monde trouve ça exceptionnel et génial. Donc, dès que quelqu'un me dit, ouais, pas mal, bien, tu dis, comment ça, pas mal, bien, c'est toute mon âme.
Même question, Moodweed, entre voilà, une mauvaise critique, un mauvais commentaire sur les réseaux sociaux, sur ton projet, est-ce que toi, tu es plus détaché de ça, ou tu le prends au premier degré, pareil?
Non, je regarde pas du tout, en fait, ouais. Les commentaires, les vues et tout ça. Du coup, je me porte très bien, en fait. Enfin, moi, je vais vraiment une grande différence entre mon plaisir de la vie. Enfin, j'ai une vie, je suis hyper heureux, j'ai une super vie et ça. Mais par contre, ma carrière et tout ça, c'est un truc qui est à côté. C'est mon fantasme, je réalise mes rêves là-dedans. Mais par contre, je souhaite en effet que ça plaise au plus grand nombre et tout ça. Mais je sais que je continuerai quoi qu'il se passe, même si j'ai 2 vues sur TikTok. Je continuerai à faire ma musique et même s'il faut, je sais pas, graver sur des morceaux de pierre au fond de mon champ, je le ferai, quoi.
Maïssi, je te vois acquiescer. Ça te parle, ça, de se dire que effectivement, un artiste, il crée, point. Et s'il y a plein de gens qui suivent l'artiste, c'est super. Et s'il y a personne, c'est de toute façon, l'artiste, il créera quand même.
Ouais, complètement. Du coup, je suis plutôt comme toi. Je pense que je regarde pas. Et le seul moment où je regarde, c'est typiquement en ce moment où, genre, du coup, j'essaye d'avoir certains deals. Et c'est, en fait, c'est pas moi qui regarde, c'est on me fait me regarder et on me dit, regarde, t'as pas assez ça, il faut que tu fasses plus ça. Et c'est des trucs, du coup, qui deviennent un peu frustrants où je me dis, ok, faut que je fasse ça pour avoir ça. Mais sinon, de base, je regarde pas et dans tous les cas, je crée. Bien sûr que ça fait plaisir si, enfin, je serais très contente s'il y avait plus de gens qui découvraient mon projet et qui. Enfin, j'ai envie de grandir, en tout cas. Mais dans tous les cas, je continue à le faire et je suis très, très contente. peu importe en fait, peu importe l'audience. Mais bien sûr, le but ultime, c'est d'en vivre. Aujourd'hui, j'en vis pas, mais c'est d'en vivre et de continuer à faire ça et de step up, genre tout le temps. Voilà.
Les versions sped up sur TikTok, ça vous inspire quoi? Parce que quand on voit que même, par exemple, Lana Del Rey en a fait des. Donc c'est pas des versions faites par les internautes, c'est des versions qu'ils ont faites. Là, Lyosha, il ne sait pas de quoi je parle.
Non, pas du tout, c'est maquette.
Il y a des versions de. Alors Lana Del Rey, c'est particulièrement flagrant parce que les tempi sont relativement lents chez Lana Del Rey, mais il y a des versions accélérées, compatibles TikTok, qui vont. Moi, j'y connais rien, mais dans un certain format, donc je crois qu'il y a une durée impartie, où t'as des versions accélérées de chansons de Lana Del Rey. Mais que du coup, ils ont maîtrisé, qu'ils ont envoyé eux et qu'ils ont exploité eux et qu'après, des internautes ont repris et ont dansé avec, etc. Tu te verrais faire une version accélérée de Ensemble.
Mais franchement, oui, TikTok. Pourquoi pas. Je crois qu'il ne faut pas trop se prendre au sérieux non plus. Et si c'est juste pour TikTok et Lana Del Rey, sa musique, ça défonce. Ce n'est pas parce qu'elle a fait une version accélérée d'un truc pour TikTok que je la respecte moins, non.
Mais toi, tu pourrais le faire. Si,
ouais, pourquoi pas.
Ça t'amuserait.
Demain matin.
Aussi, toi, par
moi, j'ai un avis sur ça. C'est déjà, je trouve ça génial. Genre, j'aime trop, ça me fait trop rire. Et surtout, j'aime trop quand. Enfin, en vrai, j'ai bien kiffé le fait que les artistes l'approprient, parce que du coup, effectivement, avant, c'était vraiment les internautes qui allaient reprendre, enfin, les musiques, ils allaient les speed up, les machins et tout. Et la première fois que j'ai vu vraiment un artiste qui se l'appropriait, c'était avec Lil Nas X. Et il avait fait tout plein de versions d'une chanson, je sais plus laquelle c'était sur YouTube, mais c'était incroyable. Et genre la même chanson, et sur YouTube, je sais pas, en 15 fois. Et c'est vraiment, bon, peut-être que j'exagère un peu 15 fois, mais en tout cas, c'est vraiment à chaque fois genre, je sais plus c'était quoi le titre, mais c'était donc le titre de la chanson, But It's Slowed With Nanana. Et en fait, à chaque fois, il faisait des versions, mais complètement what the fuck. J'ai trouvé ça trop bien. Et du coup, quand tu kiffes la chanson et que, enfin, c'est très drôle en fait d'entendre plein de versions différentes. Moi, j'aime bien en tout cas.
Anna Magidson, pour sortir des versions sped up, quand est-ce qu'il y a une suite à ces EP qui sont sortis il y a quelques mois déjà, hein?
Moi, je prépare. Je suis en train de mixer le prochain cette semaine.
Ah bah voilà.
Donc ça ne saurait tarder. Mais ça, en fait, ça me rappelle aussi quand SoundCloud c'était un peu à son epitome il y a un moment. On avait des versions Chopped and Screwed, je ne sais pas si vous vous souvenez de tout, qui était genre, tout était en demi-temps, enfin, genre vraiment slow down et genre choppé. Mm-hmm. Pour moi, je trouve ça trop bien d'avoir des parenthèses d'époque qui soient marquées dans la musique aussi, où on voit même les effets. Genre là, on est en mode speed up, mais il y a 10 ans, tout était ralenti et chopped à mort, parce que c'était aussi la grande ère de Ableton où tout le monde se mettait à faire de la prod et je trouve ça cool sociologiquement, enfin d'imaginer genre les gosses qu'on leur un bouquin d'histoire en mode. Et là tout était plus lent et après tout était tellement plus vite pour TikTok. Et c'est hyper spécial en fait de faire partie aussi de tous ces changements dans l'histoire de la culture. C'est cool.
Pour finir cette émission, dans quelques secondes, on va retrouver notre chroniqueuse Lola Avril. Dans quelques instants, ce sera un DJ set de Moodweed qui sera, le 19 mai à Hard Rock à Saint-Brieuc, un festival qu'on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je voudrais quand même qu'on écoute un petit peu d'Alyosha Schneider sur la Tsugi Radio avant d'accueillir Lola. Ça s'appelle Avant Elle, bien sûr, extrait de l'album d'Alyosha.
De moi, passe ton chemin, t'arrête pas. Non, rien à espérer de moi. Tout me glisse entre les doigts. Le bonheur, je suis arrivé à sa porte. J'ai pas osé, non, j'ai pas osé. Le bonheur, je suis arrivé à sa porte. J'ai pas osé. Non, j'ai jamais eu peur de personne. J'ai jamais eu peur de personne. Avant elle, avant elle. Jamais eu si peur qu'on m'abandonne. Avant elle, avant elle. Non, j'ai jamais eu peur de personne.
Alyosha Schneider avec cet extrait de son premier album Alyosha. Il a pas mal de dates, hein. Il était à la Cigale la semaine dernière, je l'ai dit, et je donnerai les dates tout à l'heure. Mais pour l'heure, j'accueille notre docteur en sciences politiques, Lola Avril. Salut Lola.
Salut Antoine.
Bienvenue au Carmen. Merci. T'as vu, je t'ai changé d'endroit.
C'est très étrange de changer de notre petite folie de d'habitude.
Aujourd'hui, on va évoquer avec toi comment on peut faire de la politique sur TikTok et quel rôle la musique joue dans la cybermobilisation.
Et oui, j'ai essayé de m'adapter un petit peu au thème de la soirée. Donc, on va déjà poser un peu le décor. 80% des créateurs de contenu sur TikTok ont moins de 25 ans. Et donc, c'est l'application la plus téléchargée au monde qui compte près de 1,2 milliard d'utilisateurs actifs. Et bien que l'objectif initial de TikTok n'avait rien à voir avec la politique, sa popularité et sa facilité d'utilisation en font une plateforme particulièrement adaptée aux nouvelles formes d'engagement politique, d'engagement civique. Et donc, c'est un réseau où on peut s'exprimer, où on peut se mobiliser politiquement. On parle d'activisme vidéo, c'est-à-dire une protestation audiovisuelle, souvent située en dehors des logiques gouvernementales ou des logiques partisanes.
Et pourtant, les contenus ne sont souvent pas pris au sérieux, car ils sont vus comme un petit peu superficiels.
Oui, ils ne sont pas pris au sérieux dans le sens où on a pu dire que c'était de la ludopolitique, c'est-à-dire une contraction entre jeu et politique, ou alors même de la polytainment, autre contraction entre politique et entertainment. Et c'est vrai qu'en fait, on a quand même des courtes vidéos de gens qui dansent sur quelques secondes sur des musiques. On voit mal comment elles pourraient vraiment intervenir dans le débat politique. Mais en fait, il y a quand même parfois un message politique clair. Et même si on peut avoir des doutes sur l'influence dans la vraie vie de ce contenu, certains parlent en fait d'une idée de cyberactivisme qui n'aurait pas d'impact dans le vrai débat politique, dans les campagnes électorales. En fait, c'est en partie vrai, mais je pense qu'il faut aussi quand même prendre au sérieux ce type de contenu.
Je rappelle d'ailleurs que Trump, Donald de son prénom, a tenté de l'interdire et il a été banni en Inde.
Et oui, TikTok a été banni en Inde et Trump a tenté de l'interdire en 2020 et maintenant c'est l'administration Biden qui essaye de l'interdire parce qu'elle y voit un danger pour la sécurité nationale et Trump maintenant a retourné sa veste et estime que c'est absolument crucial d'avoir TikTok et défend l'application corps et âme.
Comme par hasard.
Mais voilà, mais le fait que les États commencent en fait à vouloir réguler l'application, c'est tout de même un signe en fait de la reconnaissance de son potentiel pouvoir politique. Et en fait, on a quelques exemples où il y a une mobilisation via TikTok et notamment via la musique diffusée sur TikTok qui a pu avoir des effets réels. En 2020, lors du mouvement Black Lives Matter, à la suite du meurtre de George Floyd et d'autres cas de violence policière, il y a une chanson qui est devenue virale sur le réseau. Elle s'intitule You About to Lose Your Job Remix, parce que quand même elle a été remixée. C'est ce qui veut dire tu vas perdre ton emploi. Et en fait, à l'origine, c'était quelqu'un qui n'a rien à voir avec la musique, Jonica Charles, qui avait été arrêtée un petit peu violemment par un policier et elle a été filmée et elle était en train de chanter à ce policier « You're about to lose your job, tu vas perdre ton emploi ». C'est un petit peu devenu un cri de ralliement dans la protestation Black Lives Matter. Sa voix a été remixée pour faire une chanson diffusable sur le réseau. Et c'est devenu voilà, cet hymne dans les manifestations pendant l'été 2020 avec un hashtag à plus de 30 millions de vues. Et c'est le signe pour la chercheuse Olivia Sadler que TikTok était devenu un espace créatif et notamment permettant aux individus marginalisés de pouvoir récupérer leur pouvoir politique, un peu un empowerment.
Et je crois que les fans de K-pop se sont aussi mobilisés contre la police de Dallas pendant le mouvement Black Lives Matter.
J'avais très envie de t'entendre dire K-pop, police de Dallas et Black Lives Matter. Mais oui, Antoine, ce n'est pas une blague. En mai 2020, la police de Dallas a mis en place une application où on pouvait envoyer des vidéos des manifestations non autorisées pour que les manifestants puissent être identifiés et arrêtés. Donc voilà, on pouvait dénoncer comme ça les manifestants. Et c'est là que les fans de K-pop débarquent en masse. Plutôt que d'envoyer des vidéos des manifestants, ils inondent de l'application de Fancam. Donc, les Fancam, c'est ces vidéos très populaires sur TikTok qui mettent en scène leur idole en train de chanter, leur idole de K-pop. Et ça a marché à merveille puisque la police a dû fermer l'application.
Bien voilà qui est bien fait. Mais on doit beaucoup de choses aux fans de K-pop. Hein. Ils ont une puissance d'influence très importante.
Force de frappe.
Voilà. J'imagine que la vie politique de TikTok n'est pas faite que de success stories comme celle qu'on vient d'entendre.
Non, en fait, la logique même du réseau fait que le message peut rapidement être brouillé, réapproprié par les opposants ou vidé de son sens politique. En fait, dès qu'une vidéo devient virale, même si elle a une charge politique contestataire, elle est rapidement détournée. L'implication, en fait, invite à ses usagers à créer du contenu, à être innovant et donc produit presque mécaniquement une perte de sens politique. politique. Plus que plus la vidéo est vue, en fait, et plus son son est repartagé, et plus on va réinventer son sens, la décontextualiser. Et donc, dans le cas de You About to Lose Your Job, la chanson que je citais, on a, les utilisateurs ont essayé d'avoir le maximum d'impact en ayant des hashtags type hashtag Super Bowl, hashtag une marque commerciale. Sauf qu'au final, le message politique a été complètement perdu. Ça a complètement perdu sa dimension protestataire. Donc, on peut avoir des messages et des musiques politiques sur TikTok, mais la dimension politique peut rapidement être diluée, en fait, par le fonctionnement même de l'application qui fonctionne sur la créativité de ses utilisateurs.
Au-delà de la dilution du message politique que tu décris, est-ce que TikTok peut changer la manière de faire de la politique ?
Eh bien, selon la chercheuse Mila Cepala, oui, en fait, TikTok contribue, mais évidemment, ce n'est pas la seule plateforme à transformer les liens entre culture et politique d'une part et entre l'intime et le politique d'autre part. Donc d'abord, les jeunes transforment les produits culturels qui ne sont pas politiques en objets politiques et des déclarations politiques qui ne sont pas musicales en performances chorégraphiques. C'est déjà un premier mouvement. Et ensuite, TikTok participe de la redéfinition de la frontière entre l'intime et le politique, et entre l'intime et l'artiste d'ailleurs, on l'a vu dans nos discussions tout à l'heure, en mettant en scène en fait le politique dans leur expérience personnelle. Ces contenus rappellent que le politique peut aussi être profondément intime, et c'est pas exactement bien sûr les formes traditionnelles d'expression politique qu'on a l'habitude de voir, hein, qu'on estime qui serait légitime, mais en fait ce serait plutôt intéressant aussi de se concentrer sur le message véhiculé et sa portée.
Merci beaucoup Lola Avril pour ces liens entre TikTok et politique. Merci à tous les invités de cette deuxième remise session, la fashion quiche Amélie Zimmermann qu'on retrouve dans ses vidéos formidables sur YouTube, Maïsi, que j'ai donné les dates tout à l'heure, écoutez ce projet, Moodoid vient de sortir donc un single avec Anna Magidson, et puis il sera en concert le 19 mai à Rock à Saint-Brieuc, Anna Magidson qui va mixer son prochain EP, donc on va avoir des nouvelles bientôt. Moodoid va mixer dans quelques instants. Alyosha Schneider, lui, est en tournée aussi. Jeudi, il sera au Big Band Café à Hérouville-Saint-Clair en Normandie. Vendredi, à Laval. Et puis, il y aura Marseille pour le festival Avec le Temps. Bruxelles, Rennes, le Printemps de Bourges ou le Sioux à Morlaix. Moodoid va prendre les platines. Juste le temps de dire merci à l'équipe de Remise Music Events, Bruno Pradel et Martin Berthelot. Les copains, merci Lola Avril, merci Rémi Pierre, Hugo Cardona, l'équipe de Tsugi Radio. Merci au Carmen, merci à Durvi. Et merci à Claude Berry, hein, j'en suis là. Moodoid au platine, c'est quand tu veux. C'est parti.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.